Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on part en Écosse, à Édimbourg. Imaginez un peu la scène. Un touriste en pleine visite de nuit dans un vieux cimetière. Et là, il sent une sorte de brûlure glaciale dans le dos. De retour à son hôtel, il découvre trois longues égratignures, rouges, comme si une main l'avait griffée. Cette scène, ou une histoire très similaire, elle est racontée des centaines de fois à propos du cimetière de Greyfriars Kirkyard. La question est donc simple, comment un cimetière du XVIe siècle, en plein cœur d'Édimbourg, a-t-il pu devenir l'un des lieux les plus hantés du monde? Et même l'un des plus agressifs? On va décortiller ça en s'appuyant sur une analyse très fouillée qui explore l'histoire, le folklore et même la psychologie du lieu.
Oui, et ce qui est intéressant avec la source qu'on a, c'est qu'elle refuse de s'en tenir aux simples histoires de fantômes, quoi. Elle pose une question un peu plus profonde. Comment on fabrique une légende pareille? Et pour ça, l'analyse va regarder les faits historiques bruts, puis l'arrivée des témoignages modernes, et surtout, elle met en balance deux grandes interprétations. C'est une démarche qui se veut vraiment prudente, sans fascination naïve, mais sans non plus rejeter d'un revers de main toutes ses expériences personnelles.
Alors, pour comprendre pourquoi ce lieu est si célèbre aujourd'hui, il faut, j'imagine, remonter loin, à ses origines. Et elles sont loin d'être paisibles, n'est-ce pas?
Ah non, loin de là. On ne peut absolument pas dissocier Greyfriars de la réforme protestante en Écosse. Le cimetière a été fondé en 1562. Il faut se mettre dans le contexte. C'est une période de violence religieuse et politique, mais inouïe. L'Écosse se déchire, catholique contre protestant, et Édimbourg, c'est vraiment l'épicentre de tout ça. Donc ce cimetière, ce n'est pas juste un endroit où on enterre les morts. Dès le début, c'est un symbole politique, religieux. Y être enterré, c'est marquer son camp.
D'accord, donc dès le départ, ce n'est pas un lieu de paix éternelle, mais plutôt le reflet d'une société complètement fracturée.
Exactement. Et cette densité historique, elle ne fait que s'accumuler. Chaque génération, il laisse sa trace, ses drames. Mais il y a un événement, un siècle plus tard, qui va vraiment faire basculer le lieu dans une dimension beaucoup plus sombre. Et c'est là la véritable racine historique de la légende.
Et c'est là qu'on arrive à ce fameux épisode de la prison des Covenanters. La source le décrit comme le traumatisme fondateur du lieu. C'est quoi exactement?
C'est un événement terrible. On est en 1679. Les Covenanters, ce sont des presbytériens qui refusent l'autorité du roi en matière de religion. Après une défaite militaire, plus de 1000 d'entre eux sont capturés et ramenés à Édimbourg. Et le pouvoir, qui ne sait pas trop quoi en faire, décide de les parquer dans une section du cimetière de Greyfriars. Il faut bien visualiser la scène. Ce n'est pas une prison en dur, c'est un enclos, à ciel ouvert, sans aucun abri.
Attendez, ils ont été emprisonnés dehors, dans un cimetière?
Précisément. Pendant 4 longs mois, la source décrit des scènes terribles. 4 mois à ciel ouvert, sous la pluie, le vent d'Écosse, avec pour seule nourriture une maigre miche de pain par jour. Imaginez la promiscuité, le froid, la faim. La mort était quotidienne. C'est une souffrance à une échelle presque industrielle, concentrée sur un tout petit bout de terrain. Des centaines d'hommes y sont morts dans des conditions atroces. Et ça, ça a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire de la ville.
D'accord. Là, on comprend mieux pourquoi on parle d'un lieu chargé. Le sol est littéralement imbibé d'une souffrance historique bien réelle. Mais ce qui est surprenant, et la source insiste beaucoup là-dessus, c'est que malgré cette histoire, les récits de fantômes, eux, sont très récents.
C'est le point de bascule. Exactement. Pendant 3 siècles, Greyfriars est un lieu historique, un lieu sombre, oui, mais pas spécialement réputé pour ses fantômes. Et puis, tout change à la fin des années 1990. C'est là que les premiers témoignages de phénomènes étranges commencent à sortir dans les médias. Des visiteurs parlent de sensations de froid intense, de malaise soudain, et surtout de ces fameuses marques physiques. Des bleus, des griffures, des gens qui se sont poussés violemment.
L'histoire est sombre depuis des siècles, mais les fantômes n'arrivent que dans les années 90. Est-ce que la source fait un lien avec l'explosion du tourisme paranormal, des émissions de chasseurs de fantômes à cette époque?
Ah, mais complètement! C'est une connexion cruciale. Les années 90 et 2000, c'est l'émergence d'un intérêt mondial pour le paranormal, nourri par la télé, par Internet. Et Édimbourg, avec son esthétique gothique, devient une destination parfaite pour ce qu'on appelle le dark tourism. Des ghost tours se mettent en place et Greyfriars, ça en devient l'attraction phare. Du coup, Un cercle s'installe. Les guides racontent les histoires, les touristes arrivent en s'attendant à vivre quelque chose, et certains finissent par rapporter des incidents. Et ces nouveaux témoignages viennent nourrir les visites suivantes. Le mythe s'auto-alimente, en fait.
Et comme souvent dans ces cas-là, j'imagine que la légende a besoin d'un visage, d'un nom. Le phénomène n'est pas resté anonyme.
Non. Et c'est là que le récit se cristallise de façon très, très efficace. Toutes ces peurs flottantes, ces malaises, eh ben ils vont tous se fixer sur un seul homme, mort depuis 300 ans. Sir George Mackenzie, surnommé de son vivant Bloody Mackenzie. Mackenzie le sanguinaire.
Mackenzie le sanguinaire, ça pose le personnage. Qui était cet homme pour mériter un tel surnom et devenir le fantôme numéro un d'Écosse?
George Mackenzie, c'était le Lord Advocate, une sorte de procureur du roi dans les années 1680. Et c'est lui qui a été chargé de la persécution des Covenanters. Il était réputé pour sa cruauté, son zèle à les envoyer à la potence. Et l'ironie suprême de l'histoire, c'est que son tombeau, un imposant mausolée noir, le Black Mausoléon, se trouve où?
À Greyfriars.
À quelques mètres à peine de l'endroit où ses victimes ont été emprisonnées et sont mortes.
La victime et le bourreau réunis pour l'éternité au même endroit, c'est un scénario parfait.
C'est un moteur narratif d'une puissance incroyable. Et selon la légende moderne, l'esprit de Mackenzie, qu'on appelle maintenant le Mackenzie Poltergeist, aurait été libéré accidentellement à la fin des années 90. Et depuis, il entrait le cimetière et s'attaquerait aux visiteurs. Toutes les égratignures, tous les malaises, tout lui est attribué. Il est devenu l'antagoniste officiel de Greyfriars.
Bon. Alors, on a des centaines de témoignages, mais d'un autre côté, aucune preuve, aucune reconnaissance officielle. Comment l'analyse propose de démêler tout ça? Commençons par l'approche la plus rationnelle.
Alors, l'explication rationnelle, ou psychologique, elle s'appuie sur plusieurs choses très concrètes. D'abord, le contexte. Vous visitez un vieux cimetière, la nuit, souvent, dans le cadre d'un ghost tour, le guide vient de vous raconter des histoires de torture, de mort, d'attaques paranormales. Votre cerveau est déjà en état d'hypervigilance. Vous êtes conditionné à avoir peur et à chercher le moindre signe.
L'attente crée l'expérience, en quelque sorte.
En grande partie, oui. La source insiste beaucoup sur l'effet boule de neige. Dans un groupe, il suffit qu'une personne frissonne et le dise pour que tout le groupe devienne hypersensible au moindre courant d'air. Une branche qui craque, ça devient un pas. Une ombre, une silhouette. C'est un cocktail de suggestions, d'imagination, de surinterprétation de choses tout à fait naturelles. Pour les marques physiques, l'explication serait qu'elles peuvent être auto-infligées inconsciemment dans un état de panique ou qu'on remarque une petite égratignure seulement après et on l'attribue au lieu.
C'est une explication qui se tient, mais qui n'explique peut-être pas tout. J'imagine que pour quelqu'un qui ressort de là avec des griffures dans le dos, lui parler de suggestion, ça doit sembler un peu léger.
C'est exactement la limite de cette approche. Et c'est pour ça que la source explore une seconde piste, une autre perspective, qu'on pourrait qualifier de spirituelle ou d'énergétique. Elle ne dit pas que les gens inventent, non, mais elle propose une autre nature à ce qu'ils ressentent.
Quelle est cette autre théorie alors? Celle qui prend ses expériences plus au sérieux, sans pour autant sauter à la conclusion d'un fantôme vengeur.
Cette approche, elle repose sur l'idée de mémoire des lieux ou d'imprégnation énergétique. Elle suggère que des événements d'une violence et d'une souffrance extrême, comme l'emprisonnement des Covenanters, peuvent laisser une sorte d'empreinte, une cicatrice énergétique dans un lieu. Du coup, ce que les visiteurs ressentiraient, ce ne serait pas l'esprit conscient de Mackenzie qui décide d'aller griffer quelqu'un, ce serait plutôt une exposition à cet écho résiduel de la souffrance, de la peur, de la haine, qui a stagné là pendant des mois.
Donc ce ne serait pas une interaction avec une entité, mais plutôt une réaction de notre propre sensibilité à une atmosphère toxique laissée par l'histoire.
C'est une très bonne façon de le formuler. L'oppression, le malaise, le froid soudain, tout ça, ce serait des réactions physiologiques à cette qualité de l'atmosphère du lieu. C'est une hypothèse qui n'est pas scientifiquement prouvable, bien sûr, mais qui offre un cadre d'interprétation pour ceux qui sentent que leur expérience va au-delà de la simple suggestion.
Ce qui est fascinant, c'est que ces deux lectures, la psychologique et l'énergétique, elles ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. On peut imaginer un visiteur déjà conditionné psychologiquement, qui de ce fait devient plus sensible à une atmosphère réellement pesante.
Tout à fait. Et l'analyse conclut sur cette zone grise. Il est probable que la vérité de Greyfriars, elle se trouve dans l'interaction complexe de tout ça. Une histoire tragique bien réelle, un folklore moderne très efficace, une psychologie humaine sensible à la peur, et peut-être, oui, une dimension énergétique du lieu qui nous échappe. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de reconnaître que le phénomène est multifactoriel.
En conclusion, Greyfriars Kirkyard est bien plus qu'une simple attraction à sensations. C'est une sorte de laboratoire à ciel ouvert où l'histoire, le folklore, le commerce et notre propre psyché se rencontrent pour créer une légende extraordinairement tenace.
Et la source le souligne très bien. C'est l'absence de preuves définitives qui est le véritable moteur de la légende. Si demain on prouvait ou on réfutait l'existence du Mackenzie Poltergeist, une grande partie du mystère s'évanouirait. Le lieu fonctionne comme un miroir de notre propre rapport à l'invisible, au passé, à la mort. Il nous en apprend finalement plus sur nous-mêmes que sur les fantômes.
Et ça nous laisse avec une pensée à méditer, qui est vraiment au cœur de l'analyse. Quand on ressent quelque chose d'intense dans un lieu aussi chargé, un frisson, une angoisse, une présence, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient d'une force extérieure, d'une mémoire des pierres qui nous affecte, ou est-ce que c'est notre propre conscience saturée par les récits et l'histoire qui projette ces émotions sur l'environnement ? Autrement dit, quelle part du fantôme vient du lieu ? Et quelle part, finalement, vient de nous ?